Merveilleux, tout va bien. On tourne la page et le livre d'Agé. Quelle page, Sylvette ? Merci beaucoup, 605 pour vos Bibles, si vous avez tous la même Bible. Mais c'est toujours la même année à peu près, hein, mais c'est la page 605. Alors je voulais lire quelques extraits, mais courts extraits dans le chapitre 1 et un ou deux versets dans le chapitre 2 pour terminer ces lectures. Toujours le même moment. Verset 2. Ainsi parle le Seigneur des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps n'est pas venu, le temps où la maison du Seigneur doit être rebâtie. Alors la parole du Seigneur leur parvint par l'intermédiaire d'Agé, le prophète. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées ? On pourrait traduire plus simplement vos belles maisons décorées. Quand cette maison est en ruine, mais réfléchissez à votre situation. Vous avez beaucoup semé, ça rapporte peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas ivre. Verset 7. Ainsi parle le Seigneur des armées, réfléchissez à votre situation. Montez dans la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Au verset 12, tout le reste du peuple, ils écoutèrent le Seigneur, d'après les paroles d'Agé, selon la mission qui lui avait été donnée. Le peuple fut saisi de crainte devant le Seigneur. Et Agé dit, le Seigneur dit, je suis avec vous. Le Seigneur éveilla l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué et l'esprit de tout le reste du peuple. Et ils vinrent et se mettre à l'œuvre dans la maison du Seigneur. Et au chapitre 2, verset 4, premier tiers, « Maintenant, sois fort, Zorobabel, sois fort, Josué, sois fort, peuple du pays tout entier, déclaration du Seigneur, et agissez, car je suis avec vous, avec la parole que je vous ai donnée. » N'ayez pas peur, mon souffle se tient au milieu de vous. Et le verset 8, l'argent m'appartient, l'or m'appartient, la gloire à venir pour cette maison sera plus grande que sa gloire passée. Est-ce que le staff technique peut montrer une photo ? Pardon ? Je vous présente la Défense à Moutier, le quartier de la Défense à Moutier. Chers amis, si je pense que nous aurons un immense plaisir de vous inviter, vous serez logés sur ce tas de bois à Moutier. Non, mais on a d'autres choses à vous proposer. Voilà, chaque année dans notre communauté de Moutier, nous choisissons une devise. Une devise pour l'année. Et nous prêchons sur ce texte en janvier, et puis quelquefois on l'oublie pour le ressortir peut-être en décembre. Alors avec les anciens, là, les trois anciens, on s'est dit, mais attends, il faut faire une bonne petite révision pour les gens de Moutier, qui sont là aujourd'hui. Non, mais pour tout le monde, et nous vous proposons de réfléchir sur ce texte. Donc vous avez la ville de Moutier. Vous voyez la campagne, mes chers amis, je voulais vous apporter un petit air bucolique. N'est-ce pas un peu de la forêt ? Je ne sais pas où se trouve la première forêt ici dans cette région. Alors, qu'est-ce que le texte nous dit ? Montez dans la montagne et apportez du bois et bâtissez la maison. Nous sommes en train de construire une maison spirituelle. Oui, mais nous sommes bien accueillis ici. Est-ce que ce bâtiment était le même il y a 3 ans ou 4 ans ? Qu'est-ce que vous avez découvert quand vous êtes entré dans ces lieux ? Est-ce qu'il y a eu des heures de travail pour qu'on soit bien assis, lumineux, clair ? Voilà. Alors, premièrement, une devise, un verset clé. Oui, mais dans un contexte précis. Courage et agissez, car je suis moi-même avec vous, dit le Seigneur. Alors, si quelqu'un pouvait me donner la date précise des prophéties ou des oracles d'Agée, j'en serais très content. Nous sommes en quelle année? Donc, 2010 pour nous, c'est très bien. Mais là, ici, dans ce texte de Agée 2.4, nous sommes en quelle année? Eh bien, nous le savons, parce que c'est très précis. Quelqu'un peut me le dire? C'est écrit dans cette Bible. C'est formidable. Alors, Roy, voyez maintenant, les Bibles expliquent tout. Moi, j'aime bien les Bibles d'études. Encore faut-il trouver. Excellent. Et voyez, les réponses fusent. Nous sommes entre août et décembre 520. Ce que je viens de vous lire, Esdras, et surtout cette période-là. Donc, Esdras, Néhémie, vous vous souvenez, plus tard aussi. Et donc, je voudrais qu'on réfléchisse quelques instants sur le premier verset d'Esdras. J'aime beaucoup cela. Dans ce chapitre, il y a quelque chose de remarquable, car il y a trois personnages. Il y a trois personnages qui nous citent bien la réalité du temps, de l'histoire. Il y a le plus grand roi de la terre, c'est-à-dire Cyrus, les Mèdes et les Perses qui ont détruit les Babyloniens, qui avaient d'ailleurs envahi Jérusalem et déporté le peuple de Dieu. Et ce plus grand roi de la terre s'appelle Cyrus. Mais il y a aussi le plus grand, ou un des plus grands prophètes de la Bible, Jérémie, le prophète des Lamentations. « Oh, pourquoi suis-je né ? Seigneur, tu me confies un ministère si difficile, il ne m'écoute jamais, le grand prophète Jérémie. Et troisièmement, il y a le Dieu souverain, le grand Dieu, le Dieu vivant, le maître de l'histoire. Le plus grand homme de l'histoire, Cyrus, un des grands prophètes, mais aussi le Dieu souverain. Et que voyons-nous comme verbe clé dans ce texte? Nous voyons que Dieu réveille. Où Dieu éveille l'esprit d'eux. Dieu travaille en profondeur dans les cœurs, dans les vies, même, si vous me permettez l'expression, du plus grand homme de la terre, le roi païen des Mèdes et des Perses. Dieu, à un moment donné de l'histoire, pour faire dérouler son plan, réveille l'esprit du roi Cyrus. Et nous avons cette parole extraordinaire et étonnante, Cyrus, qui n'a rien à voir avec le peuple de Juda, le peuple de Dieu, dit « Dieu m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem. » Oui, mais vous avez lu la suite? Et vous les Judéens, là, qui êtes encore un peu en captivité, c'est à vous de bâtir cette maison. Il m'a donné l'ordre à moi. Moi, je veux bien vous donner des matériaux, je veux bien vous donner quelque chose, mais c'est à vous de commencer ce travail. Et nous voyons en deuxième point que Dieu lui-même éveille l'esprit des responsables. Oui, il y a des responsables, un gouverneur, des prêtres et des lévites et tout le peuple de Dieu. Et je voudrais dire ceci comme premier point ce matin. Grâce à cet élan, c'est beau l'élan, hein, pour arriver à ce résultat. Eh bien, grâce à cet élan, la maison de Dieu, ou certaines parties de la maison de Dieu, de ce qu'on appelait à l'époque le temple, a pu être reconstruite. Même les objets du temple dérobés par le roi Nebuchadnezzar sont encore là. 70 ans après, ils reviennent à Jérusalem. On peut recommencer d'aimer le Seigneur, de servir le Seigneur, de se retrouver en communauté. Et il y a un Dieu puissant qui a agi, qui a insufflé une dynamique. Alors, nous avons un roi païen qui donne l'élan. Nous avons des personnes qui connaissaient bien toutes ces choses, qui ont de l'élan. Et vous avez vu, il y a même une chorale qui chante « Louez le Seigneur, car le Seigneur est bon ». C'est ce que nous avons fait ce matin. Et je voyais là les jeunes, les petites demoiselles et les garçons, ça chantait de tout son cœur. C'est le tout début, c'est l'élan, c'est merveilleux. Deuxièmement, problème. L'élan ne dure pas toujours. Quelquefois, l'élan, il se casse. Quelquefois, l'élan, il se brise, il s'estompe pour toutes sortes de raisons. On est tous passés par là. Tout feu, tout flamme. Et puis, quelquefois, l'engrenage se dérègle. Il y a un engrenage difficile. Et ici, dans le texte, il y a deux choses. Et vous allez voir, c'est très important dans la vie d'une église. Quelquefois, il y a des réalités externes qui nous posent des problèmes. Et quelquefois, il y a des problèmes internes qui nous posent aussi des problèmes. C'est ce qui est arrivé au temps des Israélites. Premièrement, dans ce contexte, il nous est dit que les adversaires de Juda et de Benjamin apprirent que nous reconstruisions, qu'il y avait un très bon élan. C'est toujours comme ça. Et à ce moment-là, par toutes sortes de moyens administratifs, ou intimidation, ou menaces, moqueries, persécutions, toute la panoplie pour faire arrêter cet élan, couper cet élan. Il est dit ceci, « Le peuple du pays se mit à décourager le peuple de Juda et à intimider ces gens pour faire échouer leur projet. » Vous vous levez pour bâtir, d'autres se lèvent pour démolir. Vous vous levez dans un élan formidable pour bâtir, faire ce que Dieu demande. Et malheureusement, certains viennent là pour décourager, faire échouer les beaux projets qui nous semblent très bibliques. Et c'est une réalité. Mais il y a pire. Il y a des problèmes internes. Et le livre d'Agé est remarquable. Dans ce texte-là, en août 520, vous savez, l'élan était là, et puis, face à ces tensions, ces problèmes extérieurs, on a une phrase alors remarquable. Certains disent, « Oh, vous savez, ce n'est pas le moment. Non, non, ce n'est pas le moment de bâtir, ce n'est pas le moment de nous occuper de la maison du Seigneur. » Ainsi, il y a toujours une phrase comme cela qui vient, « Ce n'est pas le moment. » Le moment n'est pas venu. Et le prophète interpelle le peuple de Dieu en disant, oui, mais ce n'est pas le moment pour ma maison, mais c'est toujours le moment pour votre maison. Vous voyez, ce n'est plus être ou ne pas être, mais c'est le moment ou ce n'est pas le moment. Il y a toujours quelque chose, c'est bien pour le moment, et il y a toujours quelque chose, ce n'est pas le moment. Et nous regardons ce pays, nous regardons cette ville et nous voyons que la maison de Dieu est en ruine. La maison où il y a le culte de Dieu était en ruine. Et les gens posaient cette question, est-ce le temps? Et le texte se termine par cette phrase, chacun s'affaire pour sa propre maison. Et pendant 16 à 20 ans, tout s'est arrêté. Pendant 16 à 20 ans. Alors, heureusement, troisièmement, résoudre le problème. Le problème, il est résolu parce que, heureusement, nous avons un Dieu souverain. Nous avons un Dieu souverain, le Dieu vivant, qui parle à son peuple. Il peut parler à des responsables, il peut parler à tout le peuple. Nous écoutons la parole de Dieu semaine après semaine, dimanche après dimanche. Nous avons un privilège immense d'être à l'écoute de la parole de Dieu et nous entendons ainsi par le Seigneur. La parole du Seigneur leur parvint. Moi, je suis émerveillé de voir que jusqu'au 30 juin, tout est fixé sur l'évangile de Jean. Mais ça nous donne une envie extraordinaire. Oh, mais alors, jeudi prochain, Jean 4, la Samaritaine. Ou le 30 mai, Jean 18. Ou... Mais c'est un programme magnifique. Nous avons toute la parole de Dieu, nous l'entendons, elle est lue, méditée, expliquée tout au long de l'année. Mais qu'est-ce que Dieu va nous dire cette année, nous, ici, à la Garenne-Colombes? Qu'est-ce que nous allons découvrir des richesses de la parole de Dieu? Et Dieu nous dit, réfléchissez. Nous, on dit un peu facilement, ah, ce n'est pas le moment. Et Dieu me dit, réfléchissez. On attendait beaucoup et il y a peu. Ah, ça, c'est des choses qui arrivent. Ben, il ne faut pas toujours culpabiliser, hein, parce que des fois, je me souviens, moi, dans les grandes années d'OM, on distribuait 10 000 traités, puis il y avait une personne qui venait à des soirées. 20 000 traités dans une région, ici dans la région parisienne, pour voir une personne. C'est comme ça. Mais là, Dieu dit, attendez, vous avez changé un peu de priorité, vous attendiez beaucoup et il y a peu. Alors, l'appel est adressé, montez dans la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y trouverai mon plaisir, j'y manifesterai ma gloire. Alors, voilà la devise. Cette devise, elle est valable pour tous les temps, pour toutes nos communautés, et j'aimerais en dire quelques mots aussi maintenant, ce matin. Quand Dieu dit « réfléchissez », quand Dieu dit « ainsi parle le Seigneur », quand Dieu dit « écoutez ma parole », qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez ce qui se passe. Zorobabel, bon, on donne plus prénom aux enfants aujourd'hui, hein. C'est vrai, je reconnais. Mais bon, il y en avait un à l'époque. Et puis il y a Josué, ça, Josué, Yeshua, Jésus, c'est un peu plus familier. Et le reste du peuple prirent au sérieux les paroles du Seigneur. Il n'y a rien de plus beau pour une église, pour une communauté, que d'entendre cette parole. Ils prirent au sérieux les paroles du Seigneur. Ils se mirent au travail pour reconstruire la maison, tout du moins pour continuer le travail. Et nous voyons cette belle phrase qui anticipe déjà la réalité du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Le Seigneur éveilla l'esprit de X ou Y. 15 ans d'attente pour rien et tout à coup, l'élan est là. La part des hommes, la part de Dieu nous montre ce texte. Alors ce matin, Dieu nous dit « maintenant courage ». Certaines traductions utilisent ce texte. « Courage, Josué le grand prêtre ». « Courage, les responsables de l'Église ». « Pasteur, ancien, diacre, courage ». Dieu vous a confié des responsabilités ici et vous avez en premier besoin de courage. « Courage, Zorobabel ». Alors, je ne sais pas qui comparer là, gouverneur, bon, le conseil peut-être. Courage, nous dit le texte, peuple du pays tout entier, vous tous, frères et sœurs. Là, c'est l'Église, les amis, les membres, les proches de la communauté. Nous sommes tous concernés par cet appel solennel, par cette devise de, en tant que serviteur de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais juste m'arrêter encore sur ce mot « courage ». En réalité, il faudrait le traduire un peu différemment. Il faudrait le traduire « soyez fort ». Parce que le mot en hébreu, nous le retrouvons dans ce grand chapitre de Josué 1 que vous connaissez par cœur. Ils sont peut-être même en train de le lire en ce moment à l'école du dimanche. Josué 1, Dieu dit à Josué, voilà. Fortifie-toi, bon courage et en avant. Et c'est exactement ce mot. Ce mot, nous le retrouvons aussi quand Paul est arrêté et Dieu lui dit « Sois fort, Paul, courage !» C'est le mot de Jésus à ses disciples qui sont apeurés et Jésus leur dit « Vous aurez de la peine, mais courage, soyez fort, j'ai vaincu le monde. » Courage, dans le mot « courage » en français, peut-être le savez-vous, il y a cœur, ardeur, énergie, fermeté devant le danger, se décider malgré la difficulté, nous dit le petit Robert. Deuxièmement, et agissez. C'est bien de parler du courage, de la force, mais Dieu nous dit continuez à agir parce que vous construisez la maison de Dieu. Ce temple spirituel où vous êtes des pierres vivantes que Dieu a placées ici dans la communauté, Église de Jésus-Christ. Ils vinrent se mettre à l'œuvre dans la maison du Seigneur et nous avons tant de possibilités de servir le Seigneur, de faire du bien dans la communauté. Il y a quelques semaines, nous avions Claude Bécher à Cours pour une journée sur l'espérance et il nous a parlé à un moment donné de faire le bien et nous a dit « Demandez à Dieu ». Et il vous montrera mille façons de faire le bien. Et ça, c'est vrai aussi dans notre communauté. Car, et je voudrais encore souligner cela, cinq choses merveilleuses. Premièrement, je suis moi-même avec vous, dit le Seigneur. Attention, on peut facilement parler de tout ce qu'on fait, nous, nos activités, notre programme, tout. Mais premièrement, je suis avec vous, dit le Seigneur. je bâtirai mon Église ici. Deuxièmement, avec la parole que je vous ai donnée. Je suis avec vous avec la parole que je vous ai donnée. C'est un privilège merveilleux. Et troisièmement, mon esprit sera présent au milieu de vous. N'ayez pas peur. Courage, Dieu, sa présence, la parole de Dieu. Mais j'aimerais dire ce matin, mon esprit que je vous ai donné lorsque vous êtes tourné vers moi à votre conversion, mon esprit sera avec vous dans cette belle œuvre de construction. Quatrièmement, c'est Dieu qui parle, je remplirai cette maison de gloire. Alors le temple qui a été reconstruit, ce n'était pas le temple de Salomon. Et puis après, Jésus a dit devant ce temple de Jérusalem, il n'en restera pas pierre sur pierre. C'est très pratique les bâtiments, c'est très très bien. Mais Dieu veut ériger une maison spirituelle où sa gloire, sa présence soit là. Et par ce que vous serez, par votre vie, votre communion avec Dieu, quelque part, la gloire de Dieu se reflétera aussi à la Garenne Colombe. Et puis cinquièmement, ça, c'est un sujet que nous traitons très rapidement. L'argent m'appartient et l'or m'appartient. Il faudrait peut-être rappeler quand même que par-dessus tout, dans nos projets, dans les appels qui nous sont faits pour la générosité, nous savons que par-dessus tout, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu nous comble de ses grâces et de ses richesses. Conclusion. Avec cette devise qui est sous les yeux, nous voulons dire avec Alger ce matin, solennellement, dans notre cœur, je veux continuer à prendre au sérieux les paroles du Seigneur. Quel merveilleux élan avons-nous vu ces dernières années ici. Comme un symbole, alors, je vous invite, comme je l'ai invité nos amis de Moutier, à prendre chacun un morceau de bois. Bon, c'est un peu original. Par quoi on pourrait changer. Nous avons beaucoup de bois dans notre région. Mais symboliquement, en tant que pierre vivante, on prend ce morceau de bois pour construire la maison de Dieu. Dieu est riche et nous a donné des dons. Il nous a donné des qualifications. Il nous a donné des possibilités de le servir dans sa maison. Est-ce que nous sommes prêts à nous lever et chacun apporter sa contribution? Dans cette ville de la Garenne, il y a encore des personnes qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile, Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre vision, dans notre courage, dans notre confiance. Église de la Garenne, sois fort! Agis et le Seigneur lui-même sera avec toi. Montez, apportez, bâtissez pour sa gloire. Je bâtirai mon Église, la merveilleuse promesse de Dieu pour nous et pour cette ville aussi. Amen.